Radio Prague, les informations.
Bonjour. Euro 2016, le ministère des Affaires étrangères tchèque émet des recommandations aux supporters de foot et touristes tchèques en France. L'emprisonnement du lobbyiste Roman Janošek suspendu pour raison de santé. 366 ressortissants tchèques sont décédés à l'étranger en 2015. Le ministère des Affaires étrangères a émis des recommandations à destination des supporters de foot et touristes tchèques en déplacement en France au moment du championnat d'Europe de football qui débute ce vendredi. Le ministère rappelle la mise en place de l'état d'urgence dans l'Hexagone, en vigueur depuis les attentats terroristes du 13 novembre dernier à Paris. Il recommande également aux ressortissants de s'inscrire dans la base de données des citoyens tchèques voyageant à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères tchèque insiste également sur la nécessité de respecter les instructions des organisateurs de l'événement sportif et d'arriver assez tôt au match en raison des contrôles de sécurité renforcés. La Cour régionale de Brno a interrompu la peine d'emprisonnement du lobbyiste Roman Janošek pour une durée de 6 mois en raison de son état de santé, a annoncé ce jeudi la télévision tchèque. En mai dernier déjà, une commission en charge des questions de santé dans le système pénitentiaire tchèque avait recommandé de suspendre pour 1 an sa peine de prison. Le prisonnier, qui souffrirait de problèmes neurologiques, avait fait l'objet d'une opération et n'était pas retourné en cellule comme initialement prévu. Pour les docteurs de la commission, les soins requis ne sont pas compatibles avec l'emprisonnement du patient. En mars 2012, alors qu'il conduisait en état d'ébriété après un accrochage en voiture, Roman Janošek avait percuté délibérément une femme qui venait à sa rencontre avant de tenter de prendre la fuite. L'an dernier, 366 ressortissants tchèques sont décédés à l'étranger, le chiffre le plus bas depuis 2009 selon les dernières statistiques consulaires présentées ce jeudi par le ministère des Affaires étrangères. Le nombre de personnes ayant eu un accident, 330, ou ayant dû être hospitalisées, 282, a par ailleurs augmenté par rapport à 2014, mais le nombre de victimes de crimes ou de délits a pour sa part diminué. Ces dernières années, le nombre de décès de tchèques hors des frontières de leur pays tourne autour de 400 par an. C'est le plus fréquemment dans les pays voisins de la République tchèque que surviennent ces décès, en Slovaquie, en Autriche ou encore en Pologne. Les ministres de l'Agriculture, Marianne Jurečka, et de la Culture, Daniel Herman, ont signé ce jeudi un accord entérinant la création d'un comité chargé de coordonner l'inscription du hara de Kladrobe sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. La création de ce comité est selon eux la dernière étape nécessaire au lancement de la procédure de demande d'inscription sur cette prestigieuse liste. L'an prochain, le hara de Kladrobe devrait officiellement faire sa demande d'inscription, mais il faudra ensuite attendre plusieurs années avant que celle-ci soit effective. Le hara de Kladrobe a été fondé en 1579. Il est connu pour son élevage de chevaux Kladruber, une des espèces les plus vieilles au monde. Ce jeudi soir est donné le coup d'envoi du festival d'opéra Smetana à l'Etomeschol, qui en est déjà à sa 58e édition. Cette année, le festival propose un nombre record d'opéras dans toute son histoire, dont la moitié sont des nouveautés. Traditionnellement, 2 opéras du compositeur Bedřich Smetana, natif de la ville, font partie du programme, dont les Brandebourgeois de Bohème, une de ses pièces les moins jouées. De nombreux ensembles tchèques se produiront au cours de ce festival qui s'achèvera le 3 juillet prochain. On termine par un mot de météo. Vendredi, jour de fête des Guitas et des Marguitas, le ciel sera toujours couvert malgré de belles éclaircies. Des averses localisées sont également prévues pendant la journée. Les températures maximales, toujours en légère baisse, oscilleront entre 19 et 23 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, c'est la suite du programme présenté par HBTA Ticha.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous mes chers amis pour la suite de cette émission de Radio Prague consacrée à l'actualité tchèque. Commençons par remercier tous ensemble à Anna Kubišta pour son bulletin d'information. Quant au programme de notre émission, ce jeudi, nous reviendrons tout d'abord à la rencontre des premiers ministres des pays du groupe de Visegrad qui s'est tenue ce mercredi après-midi à Prague. On vous proposera ensuite l'entretien avec le chanteur et le guitariste du groupe franco-marocain Maklik qui se produira ce jeudi et vendredi en République tchèque. Et enfin, dans la deuxième partie de notre émission, on continuera avec notre série consacrée aux Français qui parlent tchèque et qui est préparée par Guillaume Narguet. Très bonne écoute à toutes et à tous. Les chefs de gouvernement des quatre pays du groupe de Visegrad, V4, étaient réunis ce mercredi à Prague. La rencontre a permis au premier ministre tchèque Bohuslav Sobotka de passer symboliquement le relais de la présidence du groupe à la Pologne, tandis que le premier ministre slovaque Robert Fico effectuait sa première visite officielle à l'étranger depuis sa réélection en mars dernier. Au menu des discussions entre les quatre dirigeants, les questions européennes et évidemment la problématique des réfugiés. C'est un sujet de Pierre Maignan.
La position de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la République tchèque n'a pas évolué et leurs chefs de gouvernement l'ont rappelé à nouveau à Prague ce mercredi. Les quatre pays centro-européens sont opposés à la réforme du droit d'asile voulue par l'Union européenne et évidemment à la répartition obligatoire des réfugiés via des quotas. Pour autant, les uns et les autres ont semblé vouloir nuancer leur approche de cette crise migratoire qui les agite tant depuis de longs mois pour mettre l'accent sur les sujets qui divisent actuellement et menaceraient l'Union européenne. Il a notamment été question de la possibilité du Brexit. À 2 semaines du vote des Britanniques sur leur maintien ou non au sein des 28, le groupe de Visegrad voit d'un mauvais œil l'éventualité d'une Union européenne rétrécie à 27, comme l'a déclaré le premier ministre tchèque Bohuslav Sobotka.
Lors de nos discussions ce mercredi sur les questions européennes, nous avons exprimé l'intérêt commun que nous avons à ce que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. La Grande-Bretagne est un partenaire important en Europe et nous pourrons mieux faire face aux défis qui se posent à l'Union européenne si le Royaume-Uni reste en son sein.
Remarqué pour ses saillies offensives à l'encontre de l'accueil des réfugiés, le premier ministre slovaque Robert Fico, qui déclarait par exemple récemment que, je cite, « l'islam n'a pas sa place en Slovaquie », fin de citation, estime que le scénario d'une fragmentation de l'Europe est aujourd'hui plus probable que celui d'une intégration plus approfondie. C'est peut-être pourquoi l'homme politique, dont le pays prend la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne dans 3 semaines, a semblé vouloir faire preuve d'ouverture envers les autres pays européens.
Nous aimerions remettre à l'ordre du jour européen des sujets positifs. Sur des sujets aussi sensibles que la migration, nous serions heureux de pouvoir nous concentrer sur les choses sur lesquelles nous pouvons trouver un accord et de mettre de côté les choses qui nous divisent. Parmi les choses positives, il y a par exemple la décision politique de mettre en place un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Faisons en sorte de réaliser ensemble ce projet.
Réélu au mois de mars dernier et désormais à la tête d'une coalition comprenant son parti social-démocrate Smer SD et d'autres formations dont les nationalistes du Parti national slovaque, Robert Fico effectuait ce mercredi son premier voyage officiel à l'étranger. La première visite du premier ministre slovaque s'effectue traditionnellement chez le voisin tchèque. Monsieur Fico avait planifié un premier voyage en avril mais avait dû y renoncer pour des soucis de santé. Avec son homologue tchèque, il a pu évoquer le sujet de l'énergie, les deux pays ayant fait le choix du nucléaire, et les transports, une thématique qui tenait particulièrement à cœur à Bohuslav Sobotka.
À mon avis, il est possible de communiquer de façon intensive sur la question de la modernisation des liaisons ferroviaires. Nous travaillons actuellement sérieusement à la possibilité de raccorder la République tchèque à l'Europe de l'Ouest avec des lignes à grande vitesse. Nous souhaitons construire le tronçon entre Berlin et Prague et travailler sur la ligne existante entre Prague, Brno et Bratislava. La question de la modernisation du corridor ferroviaire entre la frontière slovaque et Bratislava est dans ce cadre très importante. Il s'agit d'améliorer la capacité et la vitesse sur la ligne entre Břeclav et Bratislava et c'est l'une des priorités pour la communication entre nos deux pays.
Monsieur Fico et Monsieur Sobotka ont également eu l'occasion d'évoquer les commémorations que leur pays organise conjointement en 2018, celle du centenaire de la naissance de l'État tchécoslovaque et celle du cinquantenaire de l'écrasement du printemps de Prague par les troupes du pacte de Varsovie.
Maklik est en tournée en République tchèque jusqu'au 11 juin. Ce groupe franco-marocain aux influences diverses fusionne reggae et musique gnawa. Il joue ce jeudi soir au Jazz Dock à Prague. Capucine Jaffet a rencontré le chanteur du groupe Anas Zin et le guitariste Kader Denendia.
Alors, Maklik, c'est un groupe en fait qui a commencé au Maroc et c'est une continuité du groupe Gnawa Klik à Marseille. En fait, il y a eu une rencontre avec des groupes de musiciens marseillais et moi qui a fait le voyage jusqu'à Marseille et cette rencontre-là. Et après, en faisant la musique pendant un an avec ce groupe-là, j'avais envie de mixer les deux groupes, voilà. Faire un pont culturel.
Et comment est-ce qu'on peut décrire votre style musical ?
C'est la world music, c'est de la fusion, c'est beaucoup de styles musica ethniques, les chants ethniques, la musique d'Afrique, du reggae, la musique gnawa. Et le dernier concert qu'on a fait à Dresden, il y a quelqu'un qui nous a dit que c'est de la techno-africaine.
Ok, vous ne sauriez pas mettre un mot pour définir
concrètement ? Pour nous, c'est la musique du monde. Je trouve que c'est le mieux, parce qu'on aime beaucoup, beaucoup de culture et aussi il y a beaucoup de nationalités aussi, donc on ne peut pas dire si c'est un groupe marocain ou un groupe algérien ou tchèque, on préfère garder ça open.
Quel est votre public ?
Alors, le public, normalement, il n'y a pas d'âge.
Ouais.
En fait, on chante la musique pour les petits comme pour les grands.
Pourquoi venir jouer à Prague ? Est-ce que les Pragois sont particulièrement réceptifs à votre style musical ?
Et pourquoi venir jouer à Prague ? Parce qu'on a fait la rencontre avec Marek, qui est tchèque, qui habite depuis 2 ans maintenant à Marseille, qui est devenu le bassiste du groupe. Et donc, lui, déjà, il a du réseau, on va dire, à Prague et en République tchèque. Donc, c'est lui qui a organisé la totalité de cette tournée en République tchèque. Et par rapport aux Pragois, moi je pense qu'ils restent quand même ouverts à tout style, tous les styles musicaux. Après, c'est pas la même peut-être interaction qu'on a quand on joue par exemple à Marseille, vu qu'à Marseille il y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Maghrébins, donc, et les Français aussi, ils ont la culture un peu de danser, de bouger. Moi je pense qu'ils sont réceptifs à toutes sortes musical, mais pas de la même façon. Voilà. Ça veut dire qu'on peut les voir peut-être moins bouger, moins danser, c'est l'habitude qu'on a nous en France.
Alors vous jouez le 11 juin dans le cadre de la Nuit des Églises. Est-ce que votre musique est compatible avec ce genre d'événement ? C'est surprenant quand même.
Ouais, je pense que oui. Parce que en même temps, ma clique, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une musique fusionnée, mais qui part d'une base. Et cette base, c'est une musique traditionnelle. Et en fait, c'est la musique des ancêtres, c'est la musique aussi spirituelle. Du coup, je trouve que oui, ça pourrait convenir à une église ou une synagogue. Ou je pense que oui.
Et est-ce qu'avec du coup, cette tournée en République tchèque, vous pensez avoir des retours
On a joué à Doubice il y a 4-5 jours. Et déjà, on a pu regarder sur le Facebook un peu en se connectant sur les pages du lieu où on avait joué. Ils ont déjà partagé pas mal de vidéos de Maklik. Il y a beaucoup de gens justement qui ont laissé des commentaires. Donc je pense déjà, on a fait un peu parler de nous à Doubice.
Ouais, à Dresden aussi.
À Dresden,
en Allemagne aussi, on a joué ce soir ici au Cross Club et bientôt le jeudi au Jazz Dock. Oui, c'est sûr, ça fait que faire connaître le groupe et aussi d'autres connexions. Faire de la route en tout cas pour ça.
C'est la fin de ce fait et événement. Merci de votre attention. Et on continue avec la rubrique « Le tchèque du bout de la langue ». Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague. Ancienne professeure d'anglais fraîchement retraitée, Martine Kubišta est une jeune mamie française qui vit à Prague avec son mari tchèque depuis désormais 1 an et demi. Mais c'est en France, dans les années 70, lorsque tout laissait encore à penser que la Tchécoslovaquie resterait à jamais une république socialiste imperméable à l'Ouest, que Martine a appris le tchèque. Par amour pour celui qui allait devenir l'homme de sa vie, bien entendu, mais aussi par amour des langues et pour pouvoir communiquer avec sa belle-mère, la babichka de ses enfants, devenue plus tard bilingue eux aussi. C'est tout cela que Martine Kubišta est venue nous raconter dans nos studios pour la suite de notre série consacrée aux francophones qui parlent tchèque. On écoute donc Martine Kubišta qui répond aux questions de Guillaume Narguet.
Le tchèque du bout de la langue.
Bien oui, effectivement, mon mari est tchèque, donc on s'est connus en 78 et puis il a émigré à l'époque en France. Bien évidemment, lorsque nous nous sommes mariés, j'ai voulu apprendre le tchèque, pour moi c'était un peu une évidence. Apprendre la langue de la personne avec qui on va vivre, qui a de la famille, bon même si à l'époque évidemment c'était... Puisque c'était encore l'époque communiste, c'était très difficile de savoir si on allait pouvoir revenir, dans quelles circonstances. Mais bon, je trouvais que c'était pour moi une évidence d'apprendre le tchèque pour parler, pas forcément avec lui, mais en tout cas au moins avec ma belle-mère, avec la famille. Et puis quand on a eu l'occasion, ou que j'ai eu l'occasion de venir ici. Alors au début, en fait, nous n'avions qu'une langue commune ensemble, c'était l'allemand, puisqu'il ne parlait pas un mot de français, moi pas un mot de tchèque. Et quand il est arrivé en France, on a dû concentrer nos efforts sur son apprentissage du français à lui, pour faire vite, parce qu'il a fallu qu'il reprenne toutes ses études à zéro d'ingénieur en France. Donc on n'a jamais parlé tchèque à la maison. Mais moi je me suis dit, il faut quand même que j'apprenne le tchèque. Donc en fait j'ai décidé de l'apprendre toute seule. D'abord parce qu'aussi ma belle-mère, donc la mère de mon mari, elle était en retraite et elle obtenait parfois des visas pour venir chez nous. Donc je me suis dit, il faut aussi que je puisse communiquer avec elle. Donc j'ai décidé de l'apprendre et puis j'ai acheté ici à Prague à l'époque une méthode qui s'appelait, je crois, Čeština pro samouké ou quelque chose comme ça. Bon, on voyait que c'était fait quand même pour des francophones.
Apprendre seul le tchèque.
Voilà, apprendre seul, c'était un gros bouquin. C'était une méthode, tout ce qu'il y a de plus classique, mais finalement qui me convenait très bien, où on commence, tadi estul, yase menuyo, etc. Alors ce qui est assez drôle, c'est que c'était quand même à l'époque communiste, donc on avait dobrý den soudruhu profesore, ça c'était les...
Bonjour camarade.
Bonjour camarade, donc il y avait des petites choses assez drôles dans le manuel, mais c'était... Très bien fait du point de vue, je dirais, moi qui suis, dont le métier était professeur de langue, j'étais professeur d'anglais, là, maintenant je suis en retraite, donc c'est vrai que la manière d'aborder une langue, pour moi c'est important, et je suis plutôt pour une approche des langues assez progressive et plutôt traditionnelle.
Donc d'abord par les bases,
ce qui
pour le tchèque
voilà.
Passe par l'apprentissage de cette grammaire qui est quand même relativement compliquée. Peut-être le fait que vous parliez allemand vous a malgré tout aidé dans la compréhension, par
oui.
exemple, des cas.
Oui, puis j'ai fait 7 ans oui. de latin quand même au lycée, c'était encore une génération du grec, etc. Donc pour moi, les déclinaisons n'avaient rien de difficile en soi, si ce n'est que pour chaque langue, il faut les apprendre. Et il y a quand même, en tchèque, c'est quand même... Ça fait partie des choses quand même les plus dures à apprendre, parce que en allemand, à la limite, c'est rien du tout, parce qu'il y a quelques cas, alors qu'en tchèque, c'est à peu près comme en latin, il y a toutes les déclinaisons et toutes les exceptions, toutes les variantes, les animés, les inanimés, plus les petites subtilités du tchèque parlé qui simplifient. Alors pour un tchèque, c'est une simplification. Pour quelqu'un qui l'apprend, en fait, ça fait une double déclinaison à apprendre, ce qui, c'est vrai, parfois, rend les choses, parce qu'on entend, par exemple, quand on parle avec les gens quelque chose, et puis on apprend autre chose, on se dit, ah oui, bon, là, il y a déjà quelque chose de différent. Enfin, bon, on se débrouille finalement. Et donc, je l'ai appris progressivement. Donc, pour en revenir à cette méthode, il y avait en plus des exercices qui étaient corrigés à la fin. Donc, je me suis débrouillée avec cette méthode. Voilà. Et puis, je l'ai mise en pratique quand ma belle-mère venait. Mais jamais avec mon mari.
Jamais avec votre mari.
Ben non, jamais, parce qu'à l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait qu'il apprenne le français. Et puis, pas le français, juste conversation autour de la table. Le français pour pouvoir refaire des études, enfin bref, bon, il est parfaitement bilingue, etc. maintenant, bien évidemment, et ça s'est fait d'ailleurs assez vite. Mais donc, du coup, j'avais pas tellement la pratique avec lui. Et finalement, ensuite, une fois que l'habitude est prise, comme nous sommes restés en France et qu'on est dans un contexte francophone, ben, en fait, à la maison, on a toujours parlé français. Et même ici, depuis qu'on s'est installé ici il y a un an et demi, lorsque j'ai pris ma retraite, mais à la maison, on continue à parler français ensemble. En fait, je ne parle tchèque avec lui que quand je suis avec des tchécophones, avec la famille. Donc oui. Là, forcément, donc finalement, le tchèque, je l'ai parlé avec ma belle-mère, avec la famille, avec toutes sortes de gens et quasiment pas avec mon mari.
Sauf avec votre mari. Est-ce que vous aviez, au-delà de ce manuel, la possibilité de suivre des cours, par exemple, à l'université?
Pas du tout, pas du tout. À l'époque, j'habitais en Lorraine. J'aurais peut-être eu la possibilité à Nancy, mais comme j'avais ma fille, bon, celle qui est journaliste ici maintenant, mais qui était petite à l'époque, et que je travaillais, j'habitais à 30 km, j'avais pas l'occasion de suivre des cours. Donc, je l'ai vraiment appris toute seule, comme ça. Et puis ensuite, je me suis aidée aussi, quand on a pu ensuite voyager ici, après la Révolution, on a acheté parfois des films, des cassettes à l'époque, VHS, avec des films tchèques. Donc ça aussi, on apprend beaucoup. Et puis ensuite, les DVD, etc. Donc en venant ensuite régulièrement et en lisant aussi, parce que je me suis mise à lire aussi des livres un peu faciles, intéressants, mais d'approche quand même suffisamment facile, quoi, pour pas s'arrêter à chaque mot. Donc finalement, j'ai appris un peu sur le tas, à la fois sur le tas et avec une méthode pour pas...
Ouais.
Voilà, parce qu'autrement, c'est apprendre vraiment sur le tas. Je pense qu'on retient des petites formules, mais on n'arrive quand même pas à s'exprimer, quoi.
Est-ce que cet apprentissage vous a plu? Est-ce que le tchèque est une langue qui vous a plu? Parce qu'il y a quand même certains étrangers qui, à la découverte du tchèque, n'apprécient
Ah non, moi j'ai adoré. Bon, d'abord, je dois dire que, bon, de toute façon, j'aime les langues et je viens d'une famille de linguistes où tout le monde adore les langues. Donc pour moi, une langue, ça m'a tout de suite plu. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'avais fait, quand j'avais 14, 15, 16 ans, j'avais fait un petit peu de russe. Avec le père d'une amie qui était fils de russe émigré après la Révolution, etc. Donc il nous avait appris, à moi et à sa fille, un petit peu de russe avec la méthode assimile. Donc j'avais fait un petit peu de russe. Je ne peux pas dire que je parlais le russe. Mais j'avais déjà un peu une notion des langues slaves. Voilà. Donc, ça m'a certainement un petit peu aidé aussi dans l'apprentissage du tchèque.
Qu'est-ce qui vous plaît plus particulièrement dans cette langue tchèque?
Ben, j'aime en gros dans une langue ce que ça exprime d'autre, parce que les mots, bon, dire une table dans une langue ou dans une autre, voilà, un mot, c'est un mot pour un autre. Mais dès qu'on va un petit peu au-delà, c'est qu'à travers les mots, on a quand même la mentalité du pays, ce que l'on dit. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle langue, hein. Pour prendre par exemple un exemple, bon, ça, c'est un petit peu, à l'époque communiste, j'avais appris consciencieusement que acheter, ça se disait kaupet. Et puis, quand je rentrais, parfois d'avoir fait quelques petites courses, ma belle-mère me disait « saucisse hennala ». Je me suis dit « tiens, j'ai pas appris ce mot-là ». Et j'ai vite compris que, effectivement, à l'époque communiste, on disait plutôt « sernat » parce qu'on cherchait à trouver quelque chose dans les magasins.
Oui, « sernat », il faut dire que c'est trouvé.
Voilà, que ça voulait dire « trouver », alors que moi, j'avais appris « kaupet ». Ben oui, j'avais acheté. Ben non, c'était pas... Alors ça, c'est un petit détail qui appartient à une autre époque, certes, mais voilà, on le découvre à travers les mots. Là, c'est une réalité, c'était une réalité plutôt politique, économique, à travers ce mot-là. Mais pour d'autres choses, par exemple, quand on regarde des films, on rentre vraiment dans la mentalité du pays. Quand je regarde, si je me rappelle aussi une autre anecdote, par exemple, mon mari m'avait emmené, avant de pouvoir émigrer, il passait à Prague, donc encore sous l'époque communiste, Lásky, Jedné plovo v Lásky, dans un petit cinéma, à Žižkov, ou je ne sais plus où, à Vinohrady.
Un film de Miloš Forman, il faut préciser.
Le film de Miloš Forman, Les Amours d'une Blonde.
Les Amours d'une Blonde, tout à fait.
Que je ne connaissais pas, je connaissais de nom, mais je n'avais jamais vu le film. Et on était dans une salle, et tout le monde était plié en deux régulièrement. Et moi, mon mari avait beau de temps en temps me traduire des petites choses, parce que ce n'était pas sous-titré. Je me suis dit, il y avait des situations, mais je voyais pas, enfin, ça faisait rire les gens, et bon, moi, je me sentais un peu gênée, parce que je me disais, ils vont me prendre pour je sais pas qui, parce que je ne ris pas. Et je l'ai revu ensuite, parce que je maîtrisais le tchèque, justement, on avait acheté la cassette ou le DVD, je ne me souviens plus. Et à retardement, j'ai compris ce que je n'avais pas compris à l'époque. Et évidemment, j'ai ri des mêmes choses et des situations. Mais parce que la langue, justement, m'a permis d'aller réellement, de comprendre ce qui se passait.
Y a-t-il, selon vous, avez-vous des mots tchèques qui vous amusent ou qui selon vous, caractérisent les tchèques, qui sont des mots typiquement tchèques, on pourrait dire?
Bon, il y a eu, évidemment, au début, tous les mots qualifiés d'imprononçables, quoi. Avec des consonnes.
Et que vous savez aujourd'hui prononcer?
Ben, je pense, j'espère.
Par exemple?
Ben, il y a Krtek qui aime beaucoup ma petite fille, voilà. Krtek, il y a, je crois, Jezika. Il y a le Strspskskerk. Enfin bon, il y a toutes ces petites choses-là qui sont forcément amusantes, quoi.
Alors, vous l'avez dit, vous parliez français à la maison avec votre mari. Un mari qui avait émigré, qui avait fait le choix de vivre en France. Comment ça s'est passé avec vos enfants? Parce que beaucoup de Tchèques qui ont immigré avaient fait le choix de ne pas apprendre le tchèque à leurs enfants, notamment parce qu'ils pensaient que leur pays resterait toujours fermé et qu'il n'y aurait pas de possibilité d'y revenir.
Bon, alors pour moi, là encore, c'était une évidence. Je me suis dit, ils ont un père tchèque, une grand-mère tchèque, et puis de la famille tchèque, des petits cousins, etc. Et puis, il faut qu'ils sachent le tchèque. Alors la grande difficulté, c'était que moi, je ne le parlais pas évidemment à l'époque. Au début, mon mari, qui donc a dû refaire ses études à zéro, ne rentrait que le week-end, donc on ne se voyait que le week-end. Donc au quotidien, on ne pouvait pas dire que lui, il allait leur parler tchèque quand il rentrait, parce qu'il ne se voyait que le week-end. Et en fait, l'occasion a surtout été lorsque ma belle-mère venait, elle obtenait des visas parfois de 3 mois ou 6 mois. Et du coup, au lieu de mettre ma fille à la crèche, où c'était la grand-mère qui gardait la petite fille, et donc du coup, elle a appris le tchèque avec sa grand-mère.
Et alors, elle chansons traditionnelles,
des chansons,
comme avec toutes les mamies tchèques.
Exactement, toutes les petites ritournelles, kovajkovajkovajitschku, en enfilant ses petites chaussures, enfin toutes ces petites choses qu'apprennent les petits tchèques. Donc elle le faisait avec sa grand-mère. Quand sa grand-mère était là, ben, il y avait une atmosphère tchèque, parce que moi, j'apprenais, ben, il fallait bien que je communique, donc je parlais avec ma belle-mère en tchèque. Et puis quand elle partait, il y avait un creux. Donc effectivement, alors j'essayais, la seule chose que j'essayais de faire, parce que j'osais pas, j'aurais pas voulu non plus apprendre des bêtises, entre guillemets, à ma fille, mais j'essayais d'entretenir en regardant par exemple ces petits livres d'enfants tchèques, où toutes les petites chansons, les petites ritournelles, je les pratiquais avec elle régulièrement, tout en parlant français, évidemment, pour le reste. Ce qui fait que ça restait quand même, pour elle, elle n'était pas complètement coupée du tchèque. Et puis à chaque fois qu'elle avait à nouveau l'occasion de le reparler, soit parce qu'ensuite on a pu retourner dans le pays, enfin moi je pouvais y aller, mais quand mon mari a pu y retourner, ou que notre belle-mère revenait, eh bien Anna, et puis ensuite son frère, plus tard, le premier jour, ils étaient un petit peu... Ils avaient tout oublié, et c'est assez miraculeux de voir ça chez les enfants. Le lendemain, tout était reparti, comme si tout restait emmagasiné quelque part dans leur... C'était assez drôle à observer.
Martin Kubišta, děkujeme za rozhovor.
Děkuji také.
A mějte se co nejlíp.
C'était donc Martin Kubišta au micro de Guillaume Narguet, et c'est également la fin de ce programme qui vous était présenté par Alžběta Tichá. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site de Radio Prague, qui est www.radio.cz/fr, ou nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ahoy !